Eh bien, je vais convoquer le Parlement et je lui ordonnerai de me procurer de l'argent.
Le Parlement? Le roi d'Angleterre? Allez, chapeau bas devant les hommes du peuple commun.
Un mendiant?
Oui.
L'Angleterre en révolution, premier épisode. Aujourd'hui, la grande rébellion 1640-1649.
Comme mon père avant moi, je règne sur l'Angleterre et l'Écosse, de même que mes aïeux avant cela sur l'Écosse. Je suis le serviteur de mes peuples, mais pour les bien servir, je dois étendre sur eux mon autorité, sans partage.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Bernard Cotteret, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui nous accompagnera une bonne partie de la semaine et à qui on doit, entre autres, un livre sur les Tudors et, dans la collection Tempus, un livre sur les révolutions anglaises. Alors les Tudors, oui, bon, c'est tournons la page. Je sais que tout a été fait pendant l'époque des Tudors, mais maintenant nous sommes...
C'était très important, effectivement.
Nous sommes sous les Stuarts. C'est un roi Stuart qu'on vient d'entendre il y a un instant. Un roi... En son parlement, on entend beaucoup la formule depuis que les communes sont présentes sur tous les écrans de télévision du monde depuis quelques mois. Le roi en son parlement, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Jean Lebrun, je dois vous dire, c'est une formule qui remonte aux Tudors, pardonnez-moi. Donc les Tudors ont quand même été essentiels. Et c'est effectivement à partir d'Henri VIII que l'on s'est mis à parler du « King in Parliament », le roi en son parlement, qui exerce véritablement la souveraineté sur le royaume.
Mais attendez,
à l'heure actuelle.
Le Parlement, c'est les lords, les communes et le roi?
Absolument. Il y a trois éléments par le Parlement. Le Parlement, beaucoup de gens pensent que c'est le bâtiment que nous connaissons tous, et c'est un bâtiment victorien absolument extraordinaire. Non, le Parlement, c'est une institution, et il y a trois composantes qui sont d'abord la couronne, évidemment, les lords ensuite, là aussi très complexe, les lords, et puis la Chambre des communes.
Et... Le roi ne peut toucher d'impôts, décider des impôts, pour la plupart des impôts en tout cas, qu'avec l'aval du Parlement. Et ça, ça date pas des Tudors. Ça date de tout dépend de la Magna Carta 1215.
Oui, alors la Magna Carta, on lui fait endosser à peu près tout ce qu'on veut, si vous voulez. C'est son avantage, en réalité. Mais il est vrai que l'usage était pour le roi de vivre du sien. Or, vivre du sien, c'est une formule, évidemment, qui, dans la réalité, évidemment, n'était pas toujours suivie des faits. Et le roi avait besoin d'argent, en particulier quand il faisait des guerres. Et à ce moment-là, on convoquait le Parlement de façon à demander au pays de payer pour les guerres. Et ça, c'est un artifice qu'utilisent en particulier les Tudors, toujours eux, vous voyez. Et effectivement, Charles Ier va être un petit peu dans la même situation. Il va essayer de se passer de Parlement, mais il ne pourra pas.
Et en 1376, c'était déjà les Tudors? Non, parce que je dis 1376, pas tout à fait au hasard, parce que ce serait la première procédure d'impeachment. Le Parlement juge un conseiller du roi.
Ah oui, ça, très vite, le Parlement a voulu un peu s'arroger des pouvoirs qu'il n'avait pas initialement. Et non seulement on donne de l'argent au roi, mais pourquoi est-ce que on ne contrôlerait pas, dans le fond, en partie, sa politique? Et donc, effectivement, il y a cette espèce de contradiction flagrante entre le roi et la Chambre des communes et la Chambre des lords, qui va émailler toute l'histoire politique anglaise.
Sans que le Parlement puisse choisir les membres de l'entourage. Il n'y a pas encore de responsabilité ministérielle.
Non, tout à fait.
Dites-moi, le roi Stuart, qu'on entendait il y a un instant en ouverture de l'émission, il a trois couronnes. L'Écosse, après l'Angleterre, ou devant l'Angleterre même, dans son cas précis, puisque c'est une monarchie écossaise, les Stuarts. Et puis, l'Irlande. Trois couronnes, ça ne fait pas un royaume.
Trois couronnes, ça ne fait pas un royaume. Tout comme en France, quand vous y réfléchissez bien, Henri III a pu être roi de France et roi de Pologne, mais la France et la Pologne ne sont pas devenues une unité pour autant. Et donc on a trois unités distinctes et qui vont rester distinctes. Et ça a tout le problème au XVIIe siècle, comment les faire coïncider.
Donc il y a autant de distance entre l'Écosse et l'Angleterre qu'entre la Pologne et la France,
pratiquement,
si j'ai bien compris.
Pratiquement.
Quant à l'Irlande, c'est une colonie, faut être clair.
Oui, l'Irlande a un statut colonial.
C'est-à-dire que on y implante des colons protestants, oui. Par exemple en Ulster.
Oui.
D'où la.
Oui, ça c'est la politique.
La sensibilité de la question de l'Ulster.
Oui.
Et on remplace les propriétaires catholiques qui sont éradiqués.
Oui, mais maintenant les catholiques restent sur place parce qu'on a besoin de main d'œuvre.
Ah oui.
Et donc il va y avoir des contradictions nourries au sein même de la population entre les éléments d'origine protestante et les éléments d'origine catholique.
Non, parce que vous dites qu'en gros c'est comme les Amérindiens, quoi, les Irlandais catholiques pour les Anglais.
Je crois qu'on les traitait un petit peu comme on va traiter après les Amérindiens.
Oui. Bernard Cottret.
Voir les Africains.
Vous présentez le roi Stuart comme un centaure, c'est-à-dire mi-théologien, mi-souverain, parce qu'il est le souverain de l'Église d'Angleterre, dont il entend qu'elle soit organisée un peu comme la monarchie, avec une hiérarchie. No bishop, no king. S'il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de roi.
Oui, c'est une formule célèbre, et effectivement, qui va montrer combien la personne royale va être attachée à l'épiscopat, et que si l'épiscopat disparaît, ce qui va se produire pendant la Révolution anglaise, évidemment, la royauté va tomber elle aussi.
Mais il y a des dissidents, des puritains, comment dire, des groupes égalitaristes qui pensent qu'on peut se passer l'évêque.
Alors il va y avoir une contestation de l'épiscopat très très rapidement, mais dans le fond, il faut attendre la Révolution anglaise pour que véritablement on se passe des évêques. Et vous savez qu'au moment de la Restauration, en 1660, eh bien les évêques sont revenus et les évêques.
Ah non, c'est pas encore tout ça parce que ça
les évêques sont toujours là. Maintenant.
Ce sera le thème de la semaine.
Voilà.
Les puritains, ils ont développé une éthique qui peut se passer de la hiérarchie, puisque c'est dans son petit groupe, dans sa famille, qu'on doit la respecter.
Oui, alors chez les puritains, il y a une contestation effectivement de l'autorité des évêques, puis autorité royale, mais il n'y a pas de... rien n'est inconciliable entre l'épiscopat et les puritains. Ce sont eux qui effectivement prennent les devants et critiquent les évêques, mais on aurait pu imaginer une évolution différente.
On aurait pu imaginer qu'il n'y ait pas de révolution.
Bien entendu,
mais
c'est ce que j'allais vous faire dire.
Au roi Stuart, Jacques Ier, succède Charles Ier. Oui. Il n'est pas sans responsabilité dans le déclenchement de la révolution. On parlait de l'éthique puritaine. Vous vous dites qu'il y a une esthétique autour de Charles Ier qu'on voit bien quand on observe ses portraits. Il est toujours accompagné d'un cheval quand il ne monte pas sur un cheval. Ça, c'est une guide conférencière dans une émission qui s'appelait Au galop à travers le temps. Alors, elle s'intéresse encore plus au cheval qu'au monarque, mais vous allez voir que le monarque sait conduire, d'après elle, le cheval.
Nous allons voir par un très grand portraitiste flamand, cette fois-ci du nom de Van Dyck, et qui vivait en Angleterre, les célèbres portraits de Charles Ier. Charles Ier, je crois que ça me rappelle quelque chose, ça.
Oui, c'est pas le roi qui a été décapité.
Oui, on l'a décapité, Cromwell a fait une révolution, et donc il est mort d'une façon extrêmement tragique. Mais voyez-le sur ce cheval, en train de parader, s'avancer vers nous, et avec cette jolie démarche que nous reconnaissons maintenant,
est
typiquement
ce pas espagnol.
Et le voilà, et nous savons combien c'est difficile pour un cavalier d'obtenir le pas espagnol. Donc Charles Ier devait être un cavalier émérite.
Alors il sait pratiquer le pas espagnol. Il s'en va avec son favori Buckingham jusqu'en Espagne pour chercher une femme. Parce que c'est drôle quand même pour un roi d'Angleterre, un roi d'un pays protestant, de vouloir absolument avoir une femme catholique. Ça fonctionne pas en Espagne. Il va épouser une catholique française.
La merveilleuse Henriette Marie.
Oui, la merveilleuse Henriette Marie.
Ah,
c'est
écoutez, la fille d'Henri IV. J'ai le béguin pour elle, je dois vous le dire. Ça fait des années que ça dure.
Mais elle se souvient pas qu'elle est la fille d'Henri IV et qu'Henri IV a d'abord été protestant parce que
elle est catholique.
Là, entourée de chapelins catholiques, dans sa chapelle catholique. Vous
elle
pensez si ça plaît en Angleterre?
Elle est élevée au Carmel, pensez-vous. Effectivement, ça laisse des traces.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a parfois plus le tempérament d'une religieuse que d'une souveraine.
Ah, vous savez, il faut se méfier de l'eau qui dort.
En tout cas, quand Charles Ier réunit...
Elle avait du tempérament.
Quand Charles Ier réunit, est-ce que c'est son premier ou son deuxième parlement? Il va réunir tant de parlements et les fermer aussi vite. La reine dit, il pleut trop pour que j'aille accompagner la cérémonie d'ouverture du parlement. C'est pas très habile. Il a dissous combien de parlements? 1, 2, 3.
Oui, enfin, c'est surtout le dernier dont on est parlé en 1628.
Oui. Et il est réuni en 1628 et il est dissous en 1628.
C'est ça. Ouais. Et là, évidemment, devant l'insubordination des parlementaires, le roi va décider de ne plus faire appel à eux. Il va essayer de tenir cet engagement, mais il va pas pouvoir parce qu'il va y avoir une guerre avec l'Écosse et là, il va avoir besoin d'argent. Toujours la même histoire.
Parce qu'au fond, si on lit vos révolutions anglaises, on a quand même l'impression que les Stuarts, ils étaient attirés par le modèle français, le catholicisme du roi de France, et puis surtout l'absolutisme du roi de France. Et qu'au fond, ça aurait peut-être été mieux, quoi, pour l'Angleterre. Ça aurait été plus rationalisé, plus logique.
Écoutez, moi, je ne veux pas me prononcer sur ce sujet. Si l'Angleterre avait été la France, est-ce que ça aurait été mieux pour les Anglais? Mon cœur de Français aurait tendance à vous approuver, mais évidemment, mes instincts d'angliciste me font, comment dire, prendre des distances par rapport à ce genre de considération.
Vous avez assez de sympathie pour l'Écosse pour dire quand même que Charles Ier a été très maladroit en Écosse, où il n'est venu faire un voyage et se faire couronner que 33, beaucoup d'années après avoir été nommé en Angleterre.
Oui, c'est pas malin. Huit ans après, et à ce moment-là, effectivement, il découvre un peuple dont il est complètement étranger, qui lui est complètement étranger.
Ça nous est aussi assez étranger de penser que les querelles théologiques, les querelles liturgiques même, pouvaient avoir une importance politique absolument déterminante. Donc, en Écosse, il y a eu, dès 1637, une émeute à la cathédrale d'Édimbourg sur l'usage du livre de prière et les modalités de célébration de l'office.
Oui, alors la politique royale, qui est beaucoup plus subtile qu'on ne le dit très souvent, vise en fait à uniformiser les trois royaumes. Et comment mieux uniformiser les trois royaumes que par la liturgie? C'est-à-dire l'idée qui est celle des Stuarts, et qui est très intelligente quand on y réfléchit, c'est que si tous les sujets du roi prient selon les mêmes rites, tous les dimanches, à peu près à la même heure, eh bien, on va avoir un sentiment d'unité qui va se dégager. Et donc, il joue cette carte-là, ce qui est dans le fond beaucoup mieux que la carte de la coercition. Seulement, les Écossais vont voir ça venir, ils vont très bien comprendre, ils vont dire non, pas de ça chez nous.
Révolte des Écossais, pas seulement dans une cathédrale en 1637, mais armée en 1640. Alors, voici le roi, nous sommes dans un film connu, consacré à Cromwell, son futur successeur. Le roi s'entretient avec Strafford. Strafford, c'est le Lord Lieutenant en Irlande, un homme énergique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis un juriste de son entourage qui s'appelle Sir Edward. Que faire face à la révolte des Écossais?
Partez avec une armée contre les Écossais.
Une armée? Avec quelle armée? Presque toute votre armée est enlisée actuellement dans les marais d'Irlande. Le peu qu'il en reste arrive à peine à maintenir l'ordre.
Eh bien, vous lèverez une seconde armée.
J'ai peur que votre majesté ne s'aperçoive que c'est plutôt dit que fait.
Quoi?
Je garantis que je lèverai une armée de 3000 hommes avant un mois d'ici.
Pouvez-vous garantir aussi leur fidélité, monseigneur?
Y a-t-il un Anglais qui ne soit prêt à tirer l'épée pour aider le roi à vaincre ses ennemis?
J'ai bien peur que vous ne vous trompiez, Milord Strafford. Il y a beaucoup d'Anglais prêts à tirer l'épée contre le roi.
Par Dieu, qui est cet impudent qui parle comme un traître en votre présence, monseigneur?
Je crois hélas que Sir Edward dit vrai. Pour mettre une puissante armée en campagne contre les Écossais, il en coûterait près d'un million de livres. La couronne ne dispose pas d'une somme pareille.
Alors nous sommes condamnés à rester ici sans rien faire?
Eh bien, je vais convoquer le Parlement et je lui ordonnerai de me procurer de l'argent.
Le Parlement?
Oui, il n'y avait pas eu de Parlement depuis 1628 et le roi en convoque un pour financer sa guerre contre les Écossais. Ça dure pas longtemps ce Parlement, court Parlement. Et puis après, il en convoque un autre, alors celui-là, il durera plus longtemps que lui. Longue parlement. Bernard Cotteret, les Écossais, finalement, ils vont passer le Rubicon. Le Rubicon, ça s'appelle
Le Tweed.
Ouais. Et menacer la couronne française, la couronne anglaise. Et donc, celle-ci va être discutée de plus en plus par le Parlement. Racontez-nous comment ça fonctionne, ce long Parlement, avec des orateurs, un petit peu comme, je ne sais pas moi, Mirabeau Vergniaud, dans les assemblées de la Révolution française plus tard.
Alors, le Mirabeau des Anglais, si on peut utiliser cette formule, effectivement, c'est Pym.
John Pym.
John Pym, qui est un personnage, effectivement, lui aussi, qui a acquis un certain nombre d'idées au contact des puritains, et qui est extraordinairement critique, non seulement de la monarchie telle qu'elle fonctionne, mais aussi de l'Église. Cette Église qui est le principal appui, quand même, de Charles Ier. Donc, il va faire des discours fleuves, un peu comme le leader Massimo, je ne sais pas très bien prononcer l'espagnol.
Vous savez très bien prononcer l'anglais, si c'est ça que vous voulez que je vous fasse dire.
Oui, beaucoup mieux que l'espagnol. Donc, c'est un peu un personnage à la Castro, si je peux me permettre. Donc, il fait des discours interminables. Et vous savez, quand vous faites des discours interminables, vous êtes toujours gagnant, parce que vous laissez tellement vos auditeurs qu'ils n'osent plus rien dire.
Mais les orateurs de la Révolution française vont beaucoup utiliser les héros de l'Antiquité. Oui. Les orateurs du Parlement britannique, anglais, plutôt, utilisaient beaucoup les références bibliques.
Oui, ils connaissent évidemment l'Antiquité également, mais je crois que la référence biblique prime sur tout autre, surtout dans ces milieux qui sont des milieux hyper protestants.
Après l'Écosse, qui n'arrive pas à être réduite, voici que l'Irlande se soulève. L'Ulster a été planté de colonisateurs, et les Irlandais, vous les comprenez, puisque les néo-anglais les considèrent comme des indigènes, des sauvages qui parlent gaélique. Oui. Ben, ils se soulèvent en 1641 et ils liquident peut-être 10% des 100 000 Anglais qui habitent alors l'Irlande.
Alors, on ne sait pas exactement le nombre de morts, on s'en doute. Il y a des chiffres qui commencent à circuler dès 1641, qui sont des chiffres évidemment assortis de récits de cruauté épouvantable des papistes envers les bons protestants. Donc il y a toute une activité de propagande qui se greffe là-dessus. Il y a eu effectivement beaucoup de morts. Et ce qui a accentué le caractère terrible de ces tueries, c'était le climat, parce qu'on est au mois de novembre. Et donc, vous savez, en Irlande, il peut faire relativement froid, surtout quand vous allez vers la partie nord, évidemment, de l'île. Et donc, il y a ces récits de colons nus, exposés à la pluie, aux mauvais traitements des papistes, etc. Donc, il y a une intense activité de propagande qui s'est greffée là-dessus et qui explique effectivement combien la haine de l'Irlande a pu se développer en Angleterre.
Vous avez employé le mot papiste.
Oui.
Il est vrai que vous êtes parpaillot.
Oui, oui, on peut dire ça comme ça.
Donc, les parpaillots répandent des histoires épouvantables sur les papistes, parce que, évidemment, il y a des comploteurs qui viennent du continent et qui soulèvent les Irlandais. Il faut savoir que en France, à Paris, il y a un collège des Irlandais qui forme des prêtres qui sont appelés à œuvrer clandestinement en Irlande.
Tout à fait, et qui existent toujours, les lieux existent toujours. Ce sont des lieux absolument charmants, on peut aller se promener le dimanche après le repas. Et effectivement, il y a un clergé irlandais qui est formé sur le continent et qui retourne périodiquement en Irlande quand il le peut. Et
comme quoi, il faut mieux être protestant au collège catholique des Irlandais que catholique sous la domination des Anglais protestants en 1641.
Ben, disons que c'est pas très drôle. C'est pas très drôle.
Eh bien, en pleine crise écossaise non résolue, en pleine crise irlandaise, le Parlement va rédiger une grande remontrance.
Oui.
Au roi Charles Ier. Alors, vous prenez ça par-dessous la jambe, un peu, dans votre livre,
ah bon,
disant que c'est une vieille rhétorique qui est utilisée, que c'est pas aussi moderne comme conceptualisation qu'on le dit aujourd'hui.
Oui, oui. Je crois que, si vous voulez, on a fait beaucoup de surenchères sur cette révolution anglaise, ce qui est à peu près normal, d'ailleurs, parce que c'est un événement tellement extraordinaire qu'on ne peut que l'aimer. Moi, je l'aime, même si je suis partagé dans mes allégeances. J'aime à la fois Cromwell et le roi, vous verrez à la prochaine émission.
Ça, c'est demain, Cromwell. Oui, oui, mais si vous voulez bien, on va vous faire exprimer votre sympathie pour le roi, parce que le roi...
Il aimait la peinture.
D'accord. Vaut mieux peut-être l'avoir en peinture qu'en acte au Parlement. Voilà que l'idée lui vient de se présenter au Parlement et il veut en plus arrêter un certain nombre de parlementaires qu'il juge rebelles.
Monsieur le Président, messieurs, il faut que vous excusiez cette atteinte à vos privilèges, mais je ne vous retiendrai pas longtemps. Monsieur le Président, je prendrai la liberté d'occuper votre siège. J'ai apporté un mandat ordonnant l'arrestation de 5 membres de cette assemblée. John Pym, Henry Ayrton, John Hampden, Olivier Cromwell et Sir Arthur Hazelrig. Mis en accusation pour trahison. Je constate que les oiseaux se sont envolés. Monsieur le Président, je veux savoir où sont ces messieurs.
N'en déplaise à votre majesté, je n'ai pas d'yeux pour voir et je n'ai pas de langue pour parler, excepté si la chambre me permet de le faire.
Commence le rôle du speaker dont on parle tant aujourd'hui. Et finit l'habitude, rare d'ailleurs, pour le roi de venir aux communes, il n'y vient plus. Le discours du trône d'Elisabeth aujourd'hui, c'est aux Lords.
Ça s'est passé à la Chambre des Lords et on a fait entrer les communes. Mais c'est effectivement comme ça qu'on procède et jamais un roi d'Angleterre ne s'aviserait, ou une reine évidemment, ne s'aviserait d'entrer dans la Chambre des communes. Ce serait une erreur flagrante.
Alors vous parlez de drôle de guerre quand se prépare le conflit civil qui va éclater après tous ces événements. C'est un musicien de la Renaissance tardive là qu'on on entend William Byrd, qui était encore présent à l'esprit des Anglais à cette époque. La bataille.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Dans notre premier épisode de notre série de cette semaine, l'Angleterre en révolution, nous voici en 1642 jusqu'en 1649. Une, deux guerres civiles vont ravager le pays. Le roi, choisissant une capitale provisoire à Oxford, avant d'être prisonnier des Écossais, puis à l'île de Wight, et puis essayant de se libérer et de reprendre le combat. J'aimerais que vous nous racontiez comment la vie se passait à Londres, Londres qui était tenue par les adversaires du roi.
Alors, Londres, il faut bien voir ce qu'est Londres, parce que quand on prend le Londres actuel, évidemment, qui est une ville absolument gigantesque, tentaculaire, on a perdu un peu la notion de ce qu'était Londres. Londres, pour un homme du XVIIe siècle, c'était la partie que nous appelons la cité uniquement, et donc qui est centré sur la cathédrale Saint-Paul. Et on a une deuxième cité tout à côté, qui est la cité de Westminster, qui ne fait pas partie encore de Londres pour les esprits. Et alors ce Londres, évidemment, va être soumis très rapidement à une intense activité de propagande puritaine pour la part des adversaires, évidemment, de Charles Ier.
Avec et beaucoup de publications, des libelles, des pamphlets.
Avec beaucoup de publications, une activité éditoriale qu'on a du mal à imaginer maintenant. Et ce qui est prodigieux quand vous travaillez, comme je l'ai fait sur cette période, c'est de lire ces textes par milliers, qui à chaque fois expriment des points de vue très, très originaux. Et on a l'impression qu'on arrive à saisir, au moment de la Révolution anglaise, la pensée de gens qui autrefois n'avaient pas accès, en fait, à l'écriture et en tout cas pas à l'imprimerie.
Dans
et
les publications populaires, on voit souvent l'illustration de tête. C'est la perruque, les moustaches, la barbe des privilégiés passés à la meule. C'est pas seulement la barbe des nobles et du roi, mais aussi bien des parlementaires, parce que les parlementaires ont levé une armée et les soldats de cette armée vont réclamer un minimum d'égalitarisme. Je vous propose de terminer sur cette époque extraordinaire par la lecture d'un texte de Walwyn dans les années 1640.
Les puissants doivent être puissamment punis, car les péchés des gouvernants sont doubles et inacceptable. Voleras-tu, toi qui commandes aux autres de ne pas voler? Seras-tu oisif, toi qui commandes aux autres de travailler? Seras-tu fier, toi qui enseignes aux autres l'humilité? Mais ces riches et astucieux voleurs, qui n'opèrent pas au bord des chemins pour s'emparer des bourses, ni ne se faufilent par les fenêtres, ayant trouvé une façon plus rusée, plus impie, de voler que celle des pauvres ignorants. Ils se croient en sécurité. Puisque la loi et le bourreau leur sont asservis et que l'on n'ose pas les pendre, ils se font donc voleurs par loi du Parlement, tout en se faisant appeler gracieux seigneur, donc n'étant pas des voleurs. Mais que ces astucieux voleurs réfléchissent qu'un beau jour, tous les écrits qui ignorent la charité seront brûlés.
Baldwin ne s'en prend pas seulement à la cour, qui est maintenant dispersée, mais aussi bien au Parlement. Les gens de cette tendance, on les a appelés, Bernard Cottret, les niveleurs.
Les niveleurs, parce qu'ils voulaient effectivement, disait-on, aplanir toutes les conditions. Et donc, il y a une image très négative à ce moment-là, dans les milieux, effectivement, de la cour en particulier. Mais cette révolution anglaise a été d'une radicalité extrême très rapidement. Et il y a des débats, non seulement il y a des articles de journaux, il y a des articles de presse, il y a des publications nombreuses, mais il y a aussi des débats, y compris des débats au sein de l'armée. Et l'une des...
Des soviets, quoi.
Des soviets, c'est la formule. Du regretté Olivier Luteau
qui a consacré beaucoup d'études aux niveleurs.
Oui, qui parlait de soviets, et je pense qu'il n'avait pas tort.
Ouais. Mais il aurait aussi bien pu parler, lui qui était très attaché aux formes de la vie religieuse, d'église primitive. Le modèle, c'est pas le soviet qui n'existe pas encore, c'est les actes des apôtres, les communautés d'apôtres du début du christianisme.
Bien entendu, on cite ce grand passage des actes des apôtres où on voit que les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Est-ce que c'était le cas? Moi, je n'en suis pas absolument sûr, mais disons que c'était une image qui est restée et qu'on redécouvre toutes les radicaux de la réforme protestante en général.
C'est la réforme de la réforme.
Absolument, c'est la formule de Milton que vous citez.
John Milton, qui a beaucoup milité à cette époque pour la liberté de la presse. Alors, cette grande rébellion, on sait comment elle va se terminer. Demain, on partira de l'exécution de Charles Ier, qui intervient le 20 janvier 1649. Louis XVI a été exécuté un 21 janvier. Mais c'est intéressant quand même de s'attarder encore une seconde sur cette révolution égalitariste qui n'a pas eu lieu.
C'est la formule extraordinaire d'un des grands historiens anglais, Christopher Hill, qui en réalité s'intéressait de plus en plus avec les années, non pas à la révolution qui avait eu lieu, mais à celle qui aurait pu, et selon lui, qui aurait dû se produire, mais malheureusement, elle ne s'est jamais produite.
La collection la plus connue de libelles et de pamphlets de cette époque contient quelques 20 000 numéros.
Oui, absolument.
20 000 numéros sur 20 années.
J'en ai dépouillé une petite partie. Oui.
Merci à vous, Bernard Cottret. On vous retrouve accompagnant. Vous serez habillé en deuil demain. L'exécution de Charles Ier, accompagnant aussi un personnage que vous aimez finalement, qui est Cromwell,
son successeur. J'aime beaucoup les deux personnages.
Qui a fondé la République anglaise, car il y a eu une République en Angleterre. Frédéric Martin, Franck Olivard ont préparé cette émission avec Frédéric Martin, Juliette Goupoline, Laverdure, réalisation et technique. Et chez vous,
Fabrice, bonjour.